Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 18 mai, 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Et avec vous, mon cher Marc Bourreau, et si le coronavirus était entré en France dès le mois de novembre dans la jolie ville de Colmar, dans le Haut-Rhin, où il y a un musée célèbre qui s'appelle le musée Unterlinden, 70 000 habitants, c'est une hypothèse avancée par un radiologue.
Effectivement, il a ressorti tous les scanners pulmonaires réalisés depuis l'automne dernier, un véritable travail de fourmi, Guillaume, et les résultats pourraient bien en dire plus sur cette région, le Haut-Rhin, particulièrement frappée par l'épidémie, Charles Bonner.
Oui, pour procéder, ce sont près de 2500 scanners analysés un par un. Et avec la connaissance de la maladie désormais acquise, les médecins cherchent des liaisons typiques provoquées par le Covid-19. Et résultat, le premier cas daterait du 16 novembre, à une époque où la maladie était encore inconnue. Et ça n'est pas une exception. 12 autres cas repérés en décembre, 16 en janvier, avant une très forte accélération au moment de l'épidémie. L'imagerie, une manière donc de dépister plusieurs mois après, qui n'est pas garantie à 100%. Pour en avoir le cœur net, il faudrait des échantillons nasaux ou sanguins réalisés au moment du scanner pour voir si le virus est bien présent. Mais cela permet d'identifier certains porteurs potentiels pour essayer de retracer des chaînes de contamination qui auraient débuté avant que le virus ne circule officiellement sur le territoire.
Charles Bonner, le nombre de victimes ce matin repart à la hausse. 483 morts ces dernières 24 heures, essentiellement dans les EHPAD. 45 patients en moins en réanimation. Le coronavirus continue de circuler activement. 25 foyers recensés sur le territoire, près d'Orléans, dans les Côtes-d'Armor, dans un centre d'hébergement dans l'Oise. Deux cas recensés chez du personnel scolaire à Soyaux et à La Couronne, près d'Angoulême, où les écoles élémentaires sont fermées jusqu'au 25 mai.
Donc il faut mélanger deux sentiments et deux réalités, le plaisir du déconfinement et la prudence. Et la prudence, absolument. Après deux mois sous cloche, les élèves des collèges rejoignent les salles de cours à partir d'aujourd'hui, Marc.
Oui, 150 000 élèves, Guillaume, de 6e et de 5e dans les départements classés vert, rentrée progressive, par demi-groupe, distanciation physique et port du masque de rigueur. Un lourd cahier des charges pour les établissements. Audrey Chanouna est directrice d'un collège à La Rochelle. Réaménagement total. Et ce matin, 130 élèves passeront le portail à condition d'être masqués.
Ils doivent le porter dans toutes les situations où la distanciation sociale risque de ne pas être respectée. Le problème, c'est que dans les faits, il est difficile de les faire garder aux élèves en toutes circonstances. Et je pense par exemple aux cours d'EPS où ils vont devoir faire des activités physiques avec un masque sur le visage, c'est extrêmement compliqué. Mais les élèves, si on leur explique, sont bien capables de comprendre l'intérêt qu'il y a à se protéger soi-même et à protéger les autres. Mais ce sera, c'est sûr, un travail quotidien pour faire acquérir tous ces gestes qui doivent devenir des gestes automatiques.
Un propos recueilli par Lucie. Cocard, des masques qui continuent à faire défaut pour le personnel soignant. Décision très attendue du Conseil d'État aujourd'hui. Il décidera ou non de réquisitionner les stocks de masques FFP2 dans certaines entreprises.
Le personnel hospitalier, Marc, est très prudent sur les promesses du ministre de la Santé concernant notamment un plan hôpital et la réévaluation évidemment des salaires.
Et Olivier Véran annonce un Ségur de la Santé, concertation avec les partenaires sociaux le 25 mai prochain, en vue d'un plan pour l'hôpital public d'ici l'été. Augmentation de salaire, assouplissement du temps de travail, fin du dogme de la fermeture des lits. Après les paroles, attendons les actes, estime le professeur André Grimaldi, le diabétologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière et cofondateur du collectif Interhôpitaux Veille au Grain.
Il faut un plan de rattrapage précis, chiffré, pour pas créer la déception. Est-ce qu'on va continuer l'hôpital Nord de Paris avec 30% en moins de lits? Et on va continuer les brancards aux urgences ou pas? Il y a des problèmes d'organisation de l'hôpital, une gouvernance commerciale, il s'agissait de vendre. Surtout que c'est pas le premier plan. Il y a eu le plan Ma Santé 2022, il y a eu deux plans pour l'urgence, puis il y a eu le quatrième plan annoncé en novembre. Les phrases sont belles, mais la preuve d'amour ne suffit pas de déclarer des mots.
Des propos recueillis par Lauriane Tout-le-Monde.
Deux mois après les municipales, les premiers conseils démarrent leurs travaux aujourd'hui.
Oui, du moins pour les listes élues dès le premier tour, ça représente 30 000 communes. Pour les 5 000 autres, il va falloir attendre un second tour. 36 élus signés hier. Une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer un scrutin dès le mois de juin, un déconfinement démocratique. Parmi les signataires, le maire de Dijon, François Rebsamen.
On a rouvert les écoles, on peut retourner travailler, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller voter. Si on peut le faire, il faut le faire le plus vite possible pour en terminer. On va vraisemblablement, et ça serait une bonne nouvelle, installer les maires élus, eux, du premier tour, et donc on aurait des assemblées intercommunales bancales avec des élus élus et des élus qui ne seraient pas encore élus. Donc ça peut pas marcher en termes démocratiques, donc il faut en terminer pour la relance de l'investissement et puis pour faire repartir l'économie.
Le maire de Dijon, François Rebsamen.
À l'étranger, l'Italie se déconfine un peu plus à partir d'aujourd'hui, les bars et restaurants.
Eh oui, Guillaume, c'est tout un symbole. Ils peuvent rouvrir leurs portes, ces bars et ces restaurants, plus tôt que prévu d'ailleurs, mais dans des conditions sanitaires strictes, réservation obligatoire, distance physique, gants et masques indispensables. C'est un ouf tout de même, de soulagement pour les Italiens comme Niccolo Bresciani. Il est étudiant à Parme.
On n'a plus besoin de certificat pour sortir, mais tu peux toujours pas sortir de ta région. Moi, je pourrais pas rentrer chez mes parents à Brescia parce que c'est dans une autre région. Et ça va rester comme ça jusqu'au 3 juin. On pourra finalement aller voir nos amis. Je vais sûrement aller boire une bière chez quelqu'un. C'est un peu un nouveau début du pays. Si on fait les choses bien, dans la rue, on continue à garder des masques, on pourra s'en sortir de cette situation.
Propos recueillis par Victoire Fort, bras de fer et règlement de compte en perspective. L'OMS, épicentre des tensions de la planète, Assemblée mondiale de la santé aujourd'hui. 194 chefs d'État réunis virtuellement pour parler de la lutte contre le virus. Rendez-vous électrique en pleine tension entre la Chine et les États-Unis.
Et puis nous terminons cette édition, Marc Bourreau, par cette question ce matin. Comment de nos modes de vie ont favorisé l'émergence de pandémies et notamment celle du Covid-19?
Oui, question a priori étonnante, mais de nombreux spécialistes se sont penchés sur le sujet ces dernières semaines. Bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Marc.
Et le résultat aujourd'hui, c'est que le lien existe entre l'émergence de nouvelles maladies infectieuses et la crise de la biodiversité.
Oui, car nombre de ces maladies infectieuses sont ce que l'on appelle des zoonoses, des maladies d'origine animale puis transmises à l'homme. La faune sauvage est un réservoir de bactéries, de virus, et le problème c'est que les échanges entre les animaux sauvages et l'homme sont de plus en plus nombreux. La déforestation notamment, en fragmentant les espaces naturels, rapproche l'homme des animaux sauvages, oblige ces derniers à quitter leurs espaces naturels et offre ainsi de nouvelles chaînes de transmission possibles. C'est ce qui s'est passé par exemple en Malaisie où des chauves souris sont venues se nourrir sur des palmiers à huile, contaminant ensuite des élevages de porcs situés à proximité. C'est comme cela qu'est né le virus Nipah, qui a fait plus de 300 morts. Le SRAS ou encore Ebola ont comme point de départ également des chauves-souris. C'est probablement le cas aussi pour le Covid-19, dont la transmission a été assurée par un animal relais, peut-être le pangolin, qui est aujourd'hui l'une des espèces les plus braconnées. Les chercheurs spécialistes de l'épidémiologie des maladies animales constatent ainsi ces dernières décennies une hausse des maladies émergentes.
Merci Baptiste Gabory.
Voilà, on n'est quand même pas obligé de manger du pangolin. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Bienvenue à vous tous. Marlène Schiappa à 8h15. Luc Ferry à 8h40. Nous recevrons demain Didier Raoult, mercredi donc Marine Le Pen. Programme donc diversifié sur l'antenne de Radio Classique. Voici les spécialistes et nous allons partir pour le Brésil.